De corps et d'esprit, quand la psychologie rencontre le sport. Épisode 1, seul face à tous.
On a des joueurs qui arrivent lancés, parfois très près. Faut pas avoir peur. Je sais pas s'il faut être fou, mais il faut être un peu téméraire, ça c'est sûr.
Tu es folle, que t'as un pet au casque, que les gardiens c'est les tarés, quoi, les fous. En plus on prend des balles dans la tête, donc en fait on a plus beaucoup de neurones.
On est des marginaux, quoi. Comment c'est possible d'aller dans un but et se faire tirer dessus plus de 50 fois par match à plus de 100 km/h? Mais c'est des fous les gens, on les comprend pas.
On me dit que je suis totalement tarée quand même, parce que c'est clair qu'être dans les buts, ils comprennent pas non plus, quoi. Ils veulent se dire encore joueuse de champ, on peut comprendre, etc. Mais dans les buts...
Je dirais pas fou, moi, mais je dirais courageux. À la limite du courage et de l'inconscience, voilà.
Dans les sports collectifs, la victoire est souvent célébrée comme une œuvre commune, un mouvement fluide où le groupe s'efface derrière le score. Pourtant, à l'extrémité du terrain, il existe une exception qui contredit cette harmonie, le gardien de but. D'un côté, il est le membre indispensable de l'unité défensive, de l'autre, il est une figure tragique, isolée, dont l'erreur ne peut être rachetée par personne. Dès lors, une question se pose. Comment un individu seul peut-il maintenir son intégrité psychologique alors qu'il est structurellement condamné à l'échec? Est-il possible de transformer la solitude du dernier rempart en une force de performance, où le gardien est-il condamné à une lutte perpétuelle contre sa propre exigence? Pour explorer ce paradoxe, il faut se tourner vers deux disciplines où l'impact est roi, le hockey sur glace et le handball. Contrairement au football, où l'espace offre parfois un répit, ici le danger est immédiat. Le projectile, qu'il soit un palet de caoutchouc dur ou un ballon de cuir, est lancé à bout portant, à des vitesses dépassant souvent les 100 km/h. C'est cette proximité avec l'impact et la répétition des assauts qui créent une psychologie commune, celle du dernier guerrier. Quand on est deux au filet, seul, la première épreuve n'est pas physique mais morale. C'est le moment où l'on réalise que chaque but encaissé, c'est une sentence. Une sentence, oui, mais pas un échec. Dans le hockey comme dans le handball, il existe une tolérance de base. Rares sont les matchs où les gardiens finissent avec leurs cages inviolées. Prendre un but fait alors partie du job, comme l'explique Adrien Jouvencel, préparateur mental.
Tout le travail, c'est aussi de comprendre que le gardien a un gros travail de communication et un lien fort avec sa défense, avec ses joueurs de manière globale, mais se détacher aussi que, aussi bien le hand que pour le hockey, c'est des gardiens qui prendront des buts. Parce que le sport, oui, le veut comme ça. On ne verra jamais un match de hand à 25-0. Quoi. Oui. Dans le foot, on pourrait le voir. En 4-0, 5-0, on pourrait le voir. Donc il y a beaucoup plus de probabilité de pas à d'avoir pris aucun but. Pardon. Mais dans le hand et dans le hockey, il y a déjà une tolérance déjà de base. Maintenant, c'est encore une fois avec eux de travailler que je ne suis pas à 100% responsable de ce qui s'est passé, mais après tout mon taf va être avec eux. Quelle est ma part de responsabilité? On peut être hyper exigeant avec soi-même, mais on ne peut pas porter toute la responsabilité s'il y a un but.
Une analyse partagée par Thierry Omeyer, l'ancien gardien de l'équipe de France et du PSG, évoquait son expérience dans le podcast La Voix des Gardiens.
Moi, il n'y a aucun tir qui est inarrêtable. Maintenant, forcément, il y a des buts où la responsabilité du gardien, elle peut être engagée plus que sur d'autres tirs. Et donc, c'est aussi être en capacité, dans un match, de bien analyser ça et de ne pas se laisser entraîné dans quelque chose de négatif parce qu'on va prendre 2, 3, 4 buts d'affilée. Pour moi, c'est quand on est gardien de but, chaque but, c'est une frustration. Et il faut être capable de passer outre et de vite se relever, de vite regarder la suite. Et c'est quelque chose que j'ai appris à appréhender tout au long de ma carrière et au fur et à mesure que ma carrière avançait. De chaque but est une défaite, c'est quelque chose qui m'a permis de continuer à avoir envie de progresser tout au long de ma carrière. Parce que voilà, au handball et au poste de gardien de but, on n'atteint jamais la perfection, c'est-à-dire le zéro but encaissé.
D'exigence dont Adrien Jouvencel nous a parlé tout à l'heure ne vient pas seulement des tribunes ou du banc de touche. Elle naît de l'intérieur. Le succès repose sur une dureté envers soi-même qui frise l'obsession chez les gardiens. Pour eux, une défaite n'est pas un événement collectif, c'est une blessure personnelle qu'il faut disséquer pendant des heures pour espérer atteindre le niveau suivant. Gardien au Corsaire de Nantes, William Desmarais connaît bien cette sensation. Après une défaite, c'est d'abord contre lui-même qu'il doit lutter.
Bon, je me mets beaucoup plus de pression que n'importe qui peut me mettre de pression sur moi. Je suis la personne qui est le plus dur envers moi-même. Je prends chaque défaite à cœur, je prends chaque erreur très personnelle. Ça peut me prendre une journée, me remettre réellement d'un match, dépendamment du match, mais ça peut me prendre beaucoup de temps. Puis je critique beaucoup, puis je crois que c'est ça qui me fait aussi. C'est ce qui me rend un succès.
Devant une telle charge émotionnelle, la survie passe par une déconnexion paradoxale. Pour arrêter ce qui va trop vite pour être analysé, le gardien doit apprendre à ne plus penser. La réflexion devient l'ennemi de la réaction. Si le cerveau commence à calculer les mouvements de l'adversaire ou la position de ses propres membres, le corps, lui, perd sa fluidité.
Ça va sonner vraiment bizarre. Je pense à rien. J'ai rien qui va dans ma tête. À 95%, je pense à rien. Parce que pour moi, je me mets à réfléchir. J'ai l'impression qu'avec le TDAH, je focus. Je vais juste me concentrer à réfléchir. Puis c'est pas une recette gagnante pour moi. Si je me mets à réfléchir, je suis plus concentré sur le tir, je suis plus concentré sur le joueur. Si je me mets à réfléchir, souvent, c'est que je réfléchis à mes propres mouvements. Puis pour moi, ça fonctionne pas. Je laisse le joueur venir à moi, puis je réagis en conséquence. Je suis assez confiant que je suis capable de... Je suis assez rapide, assez agile pour faire les arrêts. Puis après, c'est juste de rester concentré.
Mais ce vide, ce n'est pas un abandon. C'est une focalisation extrême sur des encres techniques. Des gestes, parfaitement maîtrisés, répétés à l'entraînement et qui ne demandent plus de concentration. Le rôle de gardien étant déjà très éreintant, la place pour la réflexion supplémentaire est réduite. Au micro de l'émission Cavale, Thierry Omeyer confirme cette mécanique.
Le poste de gardien, je pense que c'est un poste très exigeant, notamment psychologiquement et mentalement. On peut penser que physiquement, c'est un peu moins éprouvant qu'un joueur de champ parce qu'il y a moins ce phénomène de course sur tout le terrain. Maintenant, il faut toujours être. On est toujours sur un travail d'appui. Il y a toujours cette concentration à avoir. Et quand on sort d'un match, il y a une vraie fatigue. Elle est forcément physique, psychologique et mentale.
Une chose qui n'a pas encore été mentionnée, c'est la dangerosité de ces deux sports. Le rapport au risque diffère selon la discipline, et si le gardien de hockey évolue avec des protections qui transforment le choc en un événement presque naturel, l'accident, lui, reste possible, rappelant la fragilité de la protection lors d'un tir dévié.
Une anecdote à l'entraînement, quoi, la semaine passée peut-être, il y a un tir dévié juste en avant de moi, ça m'est arrivé sur mon menton, mais pas sur la partie du casque, mais sur la mentonnière. J'aurais pu me fracturer à mon champ. Donc, on sait que la douleur aurait pu être beaucoup pire. L'équipement est là pour nous protéger, évidemment. Puis, ça fait juste montrer, c'est une démonstration parfaite de la technologie, puis quand même de la protection assez efficace qu'on peut avoir. C'est une décision qu'on prend, puis il faut l'assumer. Dans le sens, moi, je prends la chance de recevoir des tirs, puis Il y a des tirs qui pourraient potentiellement me blesser. Puis t'as les joueurs en avant qui se font frapper, qui tombent, qui peuvent recevoir des coups de patin, qui peuvent. Puis eux autres, tu sais, ils ont même moins de protection. Moi, je prends des lancers frappés qui arrivent rapidement. Puis avec la protection que j'ai, je trouve pas que. Personnellement, je me sens tellement protégé que c'est naturel. Tu sais, je le vois pas comme un risque.
Au handball, la réalité est différente. Le gardien dispose de beaucoup moins de protection et doit souvent faire face aux tirs presque à nu. Et parfois, l'impact est inévitable. La gardienne du Havre, Victoria Alric, l'a vécu lors d'un entraînement et témoigne pour le blog Dans la tronche.
C'est un entraînement, j'ai voulu faire peur à la joueuse pour qu'elle tire hors cadre ou qu'elle me tire dessus. Bah, ça a été le cas. Elle m'a tiré dessus dans la tête et assommée. Et puis, le lendemain, quand on a encore mal à la tête, on va voir le médecin. Il nous dit qu'on s'arrête une semaine pour laisser la tête se reposer un peu.
Au-delà de la douleur physique, il y a aussi la douleur du score. Au handball comme au hockey, et comme dit précédemment, le zéro but est une chimère, une perfection presque inatteignable. Le gardien doit donc apprendre à vivre avec la frustration permanente de voir ses filets trembler. Mais quand on en prend 1, 2, 3, 4, 5, le score peut gonfler très rapidement. Et là, il ne faut pas sombrer. Il reste une ultime technique, relativiser l'apocalypse. Imaginez le pire scénario pour réaliser que malgré tout, ce n'est pas si grave. Comme en témoigne l'ancien gardien de NHL Devan Dubnyk dans son podcast Ask Dobby.
I would take three things.
Je pense notamment à trois choses essentielles que je savais devoir faire sur la glace pour réussir. Parfois, ces choses changent un peu, mais dans l'ensemble, il s'agit de ce dont je parlais précédemment. Prépare-toi bien, repère la rondelle. Il s'agit donc d'éviter de te faire masquer. Concentre-toi sur la rondelle, prends appui sur tes appuis, ancre-toi au sol et ne te laisse pas tomber trop tôt. Il faut essayer de se concentrer sur ces petits détails et se le répéter sans cesse. Si je fais ceci, je jouerai bien. Ou si je fais cela, je mettrai toutes mes chances de mon côté pour bien jouer. En se concentrant vraiment là-dessus, on finit par oublier ce qu'on ne peut pas contrôler, ou du moins par l'atténuer. Et une autre chose que j'aime faire, et ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, c'est de réfléchir. Si je commence à sentir la nervosité monter, à ce qui pourrait arriver de pire, je me dis, quel est le pire qui puisse arriver ? J'encaisse 10 buts, je suis remplacé et je perds le match. C'est horrible. Alors, que va-t-il se passer demain? Demain, le soleil se lèvera aussi. J'aurai encore ma famille, j'ai toujours mes amis, je suis toujours dans la NHL. Absolument personne m'en voudra. Je ne perdrai personne qui compte pour moi.
En fin de compte, l'envers du maillot révèle une vérité complexe. Au fond, le gardien de but vit dans un paradoxe permanent. Il est celui que l'on remarque seulement quand quelque chose va mal, mais aussi celui qui peut, en une fraction de seconde, renverser le destin d'un match. Il porte, sur les épaules, une responsabilité que personne d'autre ne partage vraiment, celle d'être le dernier obstacle entre l'ordre et le chaos. Dans le vacarme d'une patinoire ou sous les projecteurs d'un gymnase, il apprend à vivre avec cette vérité simple, il prendra des buts. Beaucoup, parfois injuste, parfois imparable, parfois de sa faute, il prendra des buts. Mais ce qui définit un gardien, ce n'est pas le moment où la rondelle ou le ballon franchit la ligne. C'est ce qui se passe après. Se relever, se replacer, regarder l'attaquant suivant dans les yeux et accepter encore une fois d'être seul face au tir. Parce qu'au bout du compte, le véritable rôle du dernier rempart n'est peut-être pas d'arrêter tous les tirs. Non, c'est d'accepter qu'un autre arrive et d'être prêt, malgré tout.
De corps et d'esprit, un podcast écrit et réalisé par Antonin Patarin. Prochain épisode, moi, attaquant.